Lettre d'artiste. La correspondance écrite. La lettre, vous savez, cette forme de communication en voie de disparition. Utilisée jusqu'à l'apparition du fax, de l'email, du SMS, du tweet, du like, de l'émoticône. La lettre, la communication lente, quotidienne, refaite, parfois raturée, parfois même jamais envoyée. Nombre d'artistes, écrivains, compositeurs, plasticiens, ont vu leur correspondance éditée car ce sont autant de témoignages sur ce qu'ils vécurent, sur leur art, sur leurs souffrances, leurs aspirations, leurs questionnements, leurs joies, leurs déceptions, et pour ce premier épisode, leur maladie. Nous avons voulu rassembler autour du micro quelques extraits de la façon dont certains artistes frappés par la maladie en parlent à leurs proches. Camille Claudel, qu'on aide à sombrer dans la folie. Van Gogh, qui s'accommode de son séjour à l'hospice de Saint-Rémy pour peindre. Frida Kahlo, alitée à vie, ou quasiment, d'où elle peindra ses autoportraits, ainsi que Beethoven, par qui nous commençons. Le compositeur est décrit par son peintre comme ayant un visage marqué par la petite vérole vers la trentaine, âge auquel il commence à avouer douloureusement son problème d'audition dans ses lettres de l'été 1801 à Franz Gerhard Wengeler, médecin et ami d'enfance.
Mon bon et cher Wengeler, le démon de l'envie, ma mauvaise santé, a réussi à me damer le pion. Depuis 3 ans, mon ouïe est devenue de plus en plus faible. L'origine de cette maladie pourrait bien être attribuée à mon abdomen qui, tu le sais, se trouvait dans un état déplorable, même avant de quitter Bonn, et à Vienne est devenue pire, car j'ai été pris constamment de diarrhée, et par suite réduit à un état de faiblesse extrême. Je dois avouer que je mène une vie misérable. Depuis près de 2 ans, j'évite tous les rapports sociaux, puisqu'il m'est impossible de dire à mes interlocuteurs « je suis sourd ». Si j'exerçais du moins une autre profession, je pourrais surmonter cet inconvénient. Mais dans mon cas, c'est une situation terrible. En outre, mes ennemis, dont le nombre n'est pas restreint, que diraient-ils s'ils savaient? Pour te donner une idée de cette étrange forme de surdité, je dirais qu'au théâtre, je dois me tenir tout près de l'orchestre pour comprendre ce que dit l'acteur. Les tons hauts des instruments, des voix, dès que je suis un peu éloigné, je ne les entends plus. En parlant, chose étonnante, il y a des gens qui ne s'en aperçoivent pas. Comme la plupart du temps, j'étais distrait, on me tient pour tel. Parfois aussi, quand celui qui parle s'exprime à voix basse, j'entends bien les sons mais non les paroles, et je ne peux supporter qu'une personne crie. Ce qu'il en sera un jour, le ciel le sait. Je t'en prie, ne parle à personne de mon état, pas même à Lorraine. C'est un secret que je te confie. Si mon état persiste, j'irai te voir au printemps prochain. Tu loueras pour moi dans une riante contrée une maison de campagne, et j'y passerai 6 mois à vivre en paysan. Peut-être ainsi les choses changeront-elles. Si dans 6 mois mon infirmité s'avère incurable, je ferai appel à toi et alors tu devras tout quitter pour venir me rejoindre. Je voyagerai alors. C'est en jouant et en composant que mon infirmité me tourmente le moins et le plus en société.
D'abord localisée à l'oreille gauche avant de s'étendre aux 2 oreilles, sa surdité le rend d'abord insensible aux aigus. L'évolution de la maladie devient ensuite progressive, lente et inexorable. Faute de dossier médical, la surdité de Beethoven est principalement documentée par ses correspondances. L'origine de ces troubles n'est pas clairement établie, il s'agirait de troubles gastriques selon certains, de syphilis selon d'autres ou encore d'autospongiose, une dégénérescence de l'oreille interne. En 1817, il n'entend plus la musique. L'utilisation de carnets de conversation devient nécessaire au début du printemps 1818. Peu après, il est obligé d'abandonner la direction d'orchestre pendant les répétitions de son opéra Fidelio. Le musicien rapporte ses difficultés à entendre les instruments avant lors des concerts, et il s'emmure peu à peu dans le silence. Lors de la première représentation publique de sa 9e symphonie à Vienne, il était totalement sourd. C'est la chaleur de septembre 1925 à Coyoacán au Mexique. Un tramway heurte violemment un autobus et les 18 ans de la jeune Frida, lui brisant la colonne vertébrale, la clavicule, les côtes et le pelvis. Sa jambe, déjà infirme à cause de la polio, souffre maintenant de 11 fractures, Son épaule gauche est définitivement démise et l'un de ses pieds est écrasé. Ses blessures sont si graves que les médecins doutent qu'elle y survive. La scène même de l'accident sera reprise deux fois, en dessin et en peinture par la suite. Les plâtres la clouent au lit pour plusieurs mois, au cours desquels elle commence à peindre pour échapper à l'ennui. Au début, Frida utilise la boîte de peinture de son père ainsi qu'un chevalet fabriqué par sa mère qui s'adapte à la position couchée de la toute jeune artiste. Son lit fut ensuite recouvert d'un baldaquin et d'un miroir où elle se voit sur toute la longueur. Elle subira 32 interventions chirurgicales, portera 8 corsets visibles sur ses autoportraits. Frida Kahlo est l'une des plus grandes interprètes de la douleur. En voici un extrait dans cette lettre qu'elle écrit à Alexandro Gomez Arias, son ami d'enfance.
À l'hôpital français, il voulait me garder au moins une semaine en observation. Sinon rien. Dans l'autre, la pause a commencé à 9h15 et j'ai pu sortir vers 1h. Ils n'ont laissé entrer ni Adriana ni personne. J'étais toute seule à souffrir le martyre. Je vais devoir endurer cette torture pendant 3 ou 4 mois et, si ça ne me soulage pas, sincèrement, je préfère mourir, parce que je suis au bout du rouleau. Ce n'est pas seulement la souffrance physique, c'est aussi que je n'ai pas la moindre distraction. Je ne sors pas de cette chambre, je ne peux rien faire, je ne peux pas marcher, je suis complètement désespérée et, surtout, tu n'es pas là. Sans compter le reste, entendre en permanence les plaintes des uns et des autres. Ma mère va toujours aussi mal. Elle a fait 7 crises ce mois-ci. Mon père n'emmène pas plus large, il n'a plus un sou. Il y a de quoi perdre espoir, non? Chaque jour, je suis plus maigre et plus rien ne m'amuse. La seule chose qui me fait plaisir, c'est quand les garçons viennent me voir. Jeudi, j'ai reçu la visite de Chong, du blondinet Garay, de Salaz et de Gok. Et ils vont revenir mercredi. Sauf que ça ravive ma souffrance, car tu n'es pas avec nous. Ta petite sœur et ta mère vont bien, mais elles donneraient sûrement n'importe quoi pour t'avoir ici. Fais ton possible pour venir bientôt. Sois sûr et certain que quand tu reviendras, je serai exactement la même. Ne m'oublie pas et écris-moi beaucoup. C'est presque dans l'angoisse que j'attends tes lettres et elles me font un bien infini. N'arrête jamais de m'écrire, au moins une fois par semaine. Tu me l'as promis. Dis-moi si je peux t'écrire à la légation du Mexique à Berlin, ou si je fais comme d'habitude. Si tu savais comme j'ai besoin de toi, Alex, viens vite. Je t'adore.
Plus tard, Kahlo rejoindra un cercle d'intellectuels communistes et rencontre Diego Rivera, le muraliste, à qui elle présentera ses tableaux. Frida mourra à 47 ans avant d'avoir connu la vieillesse, mais après avoir subi la médecine de ce début de siècle. Elle ne peindra quasiment qu'au lit, ou au mieux en fauteuil roulant, n'arrivant à peindre dans son atelier que sous sédatif, et finira par délaisser les autoportraits pour les natures mortes. Les médicaments rendent ses coups de pinceau plus légers, moins précis. Sa mauvaise santé finira par se voir dans son œuvre, les tableaux étant de moins en moins soignés. Rivera dira de l'une de ses dernières peintures « Elle essayait de peindre un petit paysage avec autoportrait à mon intention les derniers jours avant sa mort, mais il en résulta seulement quelque chose de sale. » André Malraux écrit en 1951 « Le vrai fou, parce qu'il ne joue pas, possède authentiquement un domaine commun avec l'artiste, celui de la rupture. Mais le fou est prisonnier du drame auquel il doit son apparente liberté. Sa rupture, qui n'est pas conquise sur d'autres œuvres d'art qui lui est imposée, n'est pas orientée. Sa peinture s'apparente à celle des enfants, étrangère au pastiche par l'enfance même. La rupture de l'artiste est un secours et un moment de génie, celle du fou est une prison. » Selon Michel Foucault, Van Gogh savait bien que sa folie et son œuvre étaient incompatibles. Il explique ses problèmes dans les lettres qu'il écrit à son frère Théo, qui l'a soutenu.
« Mon cher frère, merci de ta lettre. Tu as bien raison de dire que M. Sals a été parfait dans tout ceci. J'ai de grandes obligations envers lui. Je voulais te dire que je crois avoir bien fait de venir d'ici. D'abord en voyant la réalité de la vie des fous étoquée d'hiver dans cette ménagerie, je perds la crainte vague, la peur de la chose. Et peu à peu, arriver à considérer la folie en tant qu'étant une maladie comme une autre. Puis le changement d'entourage, à ce que j'imagine, me fait du bien. Pour autant que je sache, le médecin d'ici en est arrivé à considérer que l'attaque que j'ai eue était de nature épileptique. Mais j'ai pas demandé après. Aurais-tu déjà reçu la caisse de tableau? Je suis curieux de savoir s'ils ont souffert, oui ou non. J'en ai deux autres trains, des fleurs, des ris violets, et un buisson de lilas, deux motifs pris dans le jardin. L'idée du devoir de travailler me revient beaucoup, et je crois que toutes mes facultés pour le travail reviendront aussi vite. Seulement, le travail m'absorbe souvent tellement que je crois que je resterai toujours abstrait et gaucher pour me débrouiller pour le reste de la vie aussi. C'est toujours entre temps de travail que je t'écris. Je laboure comme un vrai possédé. J'ai une fureur sourde de travail plus que jamais. Et je crois que ça contribuera à me guérir. Peut-être m'arrive-t-il une chose comme celle dont parle Eugène de la Croix. J'ai trouvé la peinture lorsque je n'avais ni dents ni souffle. Dans ce sens que ma triste maladie me fait travailler avec une fureur sourde. Très lentement, mais du matin au soir sans lâcher. Et c'est probablement là le secret, travailler longtemps et lentement. Qu'en sais-je ? Il y a des gens qui aiment la nature tout en étant toqués ou malades. Voilà les peintres. Puis il y en a qui aiment ce qui fait la main d'homme. Et ceux-là vont même jusqu'à aimer les tableaux. Quoiqu'ici, il y ait des malades fort graves, la peur, l'horreur que j'avais auparavant de la folie s'en est déjà beaucoup adoucie. Et quoique continuellement on entend ici des cris et des hurlements terribles comme des bêtes dans une ménagerie, malgré cela, les gens d'ici se connaissent très bien entre eux et s'aident les uns les autres quand ils tombent dans des crises. En travaillant dans le jardin, ils viennent tous voir, et je vous assure, sont plus discrets et plus polis pour me laisser tranquille que par exemple les bons citoyens d'Arles. Il se pourrait bien que je reste ici assez longtemps. Jamais je n'ai été aussi tranquille qu'ici et à l'hospice d'Arles, pour pouvoir enfin peindre un peu. Tout près d'ici, il y a des petites montagnes grises ou bleues, ayant à leurs pieds des blés très très verts et des pins. Je me compterai très heureux si j'arrive à travailler assez bien pour gagner ma vie, car cela me donne bien du souci quand je me dis que j'ai fait tant de tableaux et de dessins sans jamais en vendre. Ne vous pressez pas trop de trouver que ce soit là une injustice. Moi, je n'en sais rien.
Camille Claudel, l'élève et maîtresse de Rodin, avait atteint vers 1902, alors qu'elle avait environ 38 ans, le sommet de son art. Son déclin sera pourtant hélas proche, elle détruira toutes ses propres œuvres. Sa rupture avec Rodin, ses ennuis financiers et professionnels, ses mauvaises relations avec sa famille, le sentiment général d'abandon, voire même de persécution, attestent d'un comportement qui se dégrade peu à peu. Camille semblait terrorisée par on ne sait quel danger imminent, vivait cloîtrée, volet fermé, dans son appartement du rez-de-chaussée de l'île Saint-Louis, un quartier à l'époque insalubre, aux conditions d'hygiène déplorables. Son frère Paul intervient en 1913 et décide de son internement après le décès de leur père. Il s'agit alors d'un placement volontaire. Paul demande au docteur Michaud, qu'il connaît bien et qui est voisin de Camille à l'île Saint-Louis, de rédiger un certificat médical dans lequel le médecin décrit la misère physique et mentale, la saleté, l'absence de meubles ainsi que les sorties exclusivement nocturnes de Camille. Il décrit son manque de soins comme dangereux pour elle. La mère, Louise, rédige quant à elle la demande d'admission. Le jour de l'admission, Camille déclare que Rodin l'empoisonnait avec du curare et de l'arsenic, qu'il soudoyait des gens pour le mettre dans sa nourriture, pire encore, qu'il découpait des petites filles en morceaux et les jetait dans la Seine. Sa sculpture, l'âge mûr, visible au musée d'Orsay, a produit sa rupture avec Rodin car elle étalait leur vie privée dans une exposition, ce qui déplaira fortement à Rodin qui parviendra à faire retirer l'œuvre de Camille. Cet épisode a probablement fait débuter le sentiment de persécution. Après plusieurs années enfermées, Camille repense au médecin dans son ancien voisin qui l'avait fait interner et lui écrit
« Monsieur le docteur, vous ne vous souvenez peut-être pas de votre ex-cliente et voisine. Mademoiselle Claudel, qui fut enlevée chez elle le 13 mars 1913 et transportée dans les asiles d'aliénés, d'où elle ne sortira peut-être jamais. Cela fait 5 ans, bientôt 6, que je subis cet affreux martyre. Je fus d'abord transportée dans l'asile d'aliénés de Villers-Rares, puis de là, dans celui de Mont-de-Vergue, près de Montfavet, Vaucluse. Inutile de vous dépeindre quelles furent mes souffrances. J'ai écrit dernièrement à M. Adam, avocat, à qui vous aviez bien voulu me recommander, et qui a plaidé autrefois pour moi avec tant de succès. Je le prie de vouloir bien s'occuper de moi. Mais dans cette circonstance, vos bons conseils me seraient nécessaires, car vous êtes un homme de grande expérience, et comme docteur en médecine, très au courant de la question. Je vous prie de bien vouloir causer de moi avec M. Adam, et réfléchir à ce que vous pourriez faire pour moi. Du côté de ma famille, il n'y a rien à faire. Sous l'influence de mauvaises personnes, ma mère, mon frère, ma sœur n'écoutent que les calomnies dont on m'a couverte. On me reproche, au crime épouvantable, d'avoir vécu toute seule, de passer ma vie avec des chiens, d'avoir la manie, la persécution. C'est sur la foi de ces accusations que je suis incarcérée depuis 5 ans et demi, comme une criminelle, privée de liberté, privée de nourriture, de feu et des plus élémentaires commodités. J'ai expliqué à M. Adam dans une longue lettre les autres motifs qui ont contribué à mon incarcération. Je vous prie de la lire attentivement pour vous rendre compte des tenants et des aboutissants de cette affaire. Peut-être pourriez-vous, comme docteur en médecine, user de votre influence en ma faveur. Dans tous les cas, si on ne veut pas me rendre ma liberté tout de suite, je préférerais être transférée à la Salpêtrière, ou à Sainte-Anne, ou dans un hôpital ordinaire où vous puissiez venir me voir et vous rendre compte de ma santé. On donne ici pour moi 150 francs par mois, et il faut voir comme je suis traitée. Mes parents ne s'occupent pas de moi et ne répondent à mes plaintes que par le mutisme le plus complet. Ainsi on fait de moi ce qu'on veut. C'est affreux d'être abandonnée de cette façon. Je ne puis résister au chagrin qui m'accable. Enfin, j'espère que vous pourrez faire quelque chose pour moi. Et il est bien entendu que si vous avez quelques frais à faire, vous voudriez bien en faire la note et je vous rembourserai intégralement. J'espère que vous n'avez pas eu de malheur à déplorer par suite de cette maudite guerre, que monsieur votre fils n'a pas eu à souffrir dans les tranchées et que madame Michaud et vos deux jeunes filles sont en bonne santé. Il y a une chose que je vous demande aussi. Quand vous irez dans la famille Merclin, de dire à tout le monde ce que je suis devenue. Maman et ma sœur ont donné l'ordre de me séquestrer de la façon la plus complète. Aucune de mes lettres ne part, aucune visite ne pénètre. À la faveur de tout cela, ma sœur s'est emparée de mon héritage et tient beaucoup à ce que je ne sorte jamais de prison. Aussi je vous prie de ne pas m'écrire ici, et de ne pas dire que je vous ai écrit, car je vous écris en secret contre les règlements d'établissement. Et si on le savait, on me ferait bien des ennuis. Je dois vous mettre en garde contre les balivernes dont on se sert pour prolonger ma séquestration. On prétend que l'on va me laisser enfermer jusqu'à la fin de la guerre. C'est une blague et un moyen de m'abuser par de fausses promesses, car cette guerre-là n'est pas pour finir, et d'ici là, je serai finie moi-même. Si vous saviez ce qu'il faut endurer, c'est à faire frémir. Si quelquefois je ne pouvais plus vous écrire, veuillez tout de même ne pas m'abandonner. Et agir si vous le pouvez le plus tôt possible. Ce qui gêne dans cette circonstance, c'est l'influence secrète des étrangers qui se sont emparés de mon atelier et qui tiennent maman dans leurs griffes pour l'empêcher de venir me voir.